Soyez alerte, la chronique que voici pourrait vous déranger. Tel le moustique qui pique. La chronique du moustique avec le sismologue à la retraite de Lucac, Rénald Duberger.
Non, mais mon lest est moi, ce qui tombe.
Rénald, c'est-tu bon du phosphate dans du lait, faire comme un quick?
Du phosphate dans du lait?
Ben oui, quand on fait comme un quick, là.
Pas sûr.
J'ai jamais goûté ça.
C'est-tu dangereux? Je mets un peu de sucre, un exemple.
Parce qu'apparemment que le Saguenay est une terre de phosphate ben, et oui. De grande qualité en plus.
Bon. Vous allez concurrencer des pays. Comme je pense qu'au Maroc, il y a du phosphate aussi. C'est un grand... Je pense que c'est un exportateur. Ça sert aussi dans les engrais, hein, pour faire...
Oui.
Amendement
de la terre, des sols. Je pense que les autres, phosphate, je pense pour les batteries, je pense qu'ils veulent...
Oui, pour les batteries, qui ont des gisements extrêmement purs, on peut dire, au point de vue...
tant mieux, mais vous avez des ressources naturelles au Saguenay, vous avez des terres rares aussi à Saint-Honoré. Il ne faudrait pas l'oublier.
C'est vrai. Absolument. Et ce matin, on va parler de barrières, en fait, de coraux et également d'ours polaires.
Oui, ce sont deux animaux. D'abord, le corail, c'est un animal, contrairement à ce que beaucoup de gens pourraient penser. Deux animaux qui sont prisés particulièrement par les alarmistes climatiques, là, qui les prétendent menacés depuis la fin du petit âge glaciaire, au début de l'ère industrielle, par le fameux réchauffement climatique anthropique causé par nos émissions de gaz à effet de serre. On va montrer que c'est faux en ce matin. On va commencer par le corail. Le corail, ben, comme c'est un animal qui se développe en colonie, en banc, et éventuellement en ce qu'on appelle en récif, on peut en avoir autour des îles volcaniques, par exemple dans le sud du Pacifique, quand une île volcanique surgit, autour de l'île va se développer des bancs de coraux, éventuellement le poids de l'île va faire que l'île va pouvoir s'enfoncer dans l'océan, il va rester en surface qu'un anneau de corail qu'on appelle un atoll. Hein. J'ai visité plusieurs de ces atolls-là, moi, quand j'étais allé dans le sud du Pacifique, à deux reprises, en Polynésie française. Pour que le corail se développe, ça prend de l'eau claire, de l'eau propre. Il faut que ça soit peu profond parce qu'il faut qu'il y ait de la lumière nécessaire pour que l'animal corail puisse se développer, survivre. Et aussi, ça prend de l'eau chaude, mais pas trop chaude quand même. Hein? Donc, pour les récifs de corail, les changements du pH de l'eau, c'est-à-dire de l'acidité et de température, peuvent causer ce qu'on appelle le blanchiment. Hein, du corail, ou c'est l'essivage, blanchiment. Puis ça peut même jusqu'à aller faire mourir le corail si c'est trop rapide puis si c'est trop prononcé. Donc, on prétend que le CO2, qui est dissous dans l'eau de mer, qui crée de l'acide carbonique, peut faire baisser le pH, donc acidifier l'océan, à un point tel qu'on peut obtenir éventuellement l'extinction de tous les coraux du monde entier. C'est ce que les alarmistes climatiques prétendent. C'est vrai que des brusques changements de température puis d'autres conditions, ça peut causer le blanchiment, mais pas en tuant directement le corail, mais en tuant plutôt les algues qui vivent en symbiose avec le corail puis qui donnent entre autres sa couleur. Ce qui est faux là-dedans, c'est que ça mène toujours à la mort du corail. C'est pas vrai. Des recherches récentes le montrent que le corail peut se régénérer même après un blanchiment sévère qui a conduit les scientifiques à conclure que le banc de corail était définitivement perdu. Donc, le corail a une capacité, même après des blanchiments très sévères, de se régénérer. Par exemple, en 1998, on a eu un très fort événement El Niño. Les El Niño, ça réchauffe l'eau de mer. Oui. Ça a blanchi une partie des récifs coralliens, comme la grande barrière qu'on connaît au nord de l'Australie. Quand on y retournait là-bas 17 ans plus tard, en 2015, on était très surpris de constater que le corail s'était régénéré. Donc, pardon, certains scientifiques avaient pourtant prévu que ça prendrait plus que 100 ans à se régénérer. Donc, plusieurs de ces récifs de corail-là qui ont été déclarés morts sont en réalité ressuscités. Puis les polypes de coraux, qui sont des animaux en forme d'anémone, là, qui servent de structure aux coraux, souffrent sous une trop grande chaleur, mais les coraux ont besoin d'eau chaude et donc ils n'ont pas d'eau froide pour survivre et se développer. Donc les coraux ont survécu pendant les 60 dernières millions d'années. Ils ont passé des périodes même beaucoup plus chaudes qu'aujourd'hui, les températures étaient plus élevées, où les taux de CO2 également étaient beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui, beaucoup plus que maintenant. Donc, les coraux vivent dans des zones tropicales, subtropicales. Non seulement ils ne tendent pas à disparaître, mais ils ont tendance avec le léger réchauffement climatique qu'on connaît maintenant, je dis bien léger réchauffement climatique, à se développer de plus en plus vers les pôles. Donc, les bancs de coraux, à l'heure actuelle, ne sont pas menacés, ils sont plutôt en expansion. Le grand récif barrière, là, a presque été déclaré mort en 2012, mais en 2022, 10 ans plus tard, on a assisté à un épisode de croissance assez incroyable.
C'est donc dire que peu importe le réchauffement qu'on va avoir, vous avez mentionné qu'ils ont déjà vécu un état plus chaud, qu'il risque d'être encore là et l'homme n'y sera plus.
Exact. Et c'est ça, ils sont loin d'être menacés. On va maintenant s'intéresser aux ours polaires. Tout le monde a vu cette photo de l'ours polaire agonisant, tout maigre, on y voyait les côtes là, sur la banquise, publiée par le National Geographic Society, National Geographic Magazine. Tout le monde a vu ça.
Oui.
Et tout le monde, et s'il y a des jeunes qui nous écoutent, là, dans leur manuel scolaire de sciences et technologies, ils ont cette photo larmoyante du pauvre petit ours polaire la dérive sur son glaçon flottant au milieu de l'océan Arctique. Hein? Ça, c'est des photos qui veulent vous sensibiliser, entre guillemets, là, en réalité vous alarmer sur l'éventuelle disparition de l'ours polaire à cause du réchauffement climatique. Ça aussi, c'est faux. La population, en fait, elle a augmenté, si on parle de 1960, là, à partir de 1960, la population a augmenté substantiellement. Et ça a commencé d'augmenter au moment où le gouvernement fédéral canadien a commencé à gérer la chasse de l'ours polaire. On est rendu à 32 000 individus. C'est 3 fois plus qu'en 1960. Puis il y a certaines sous-populations qui ont baissé, bien sûr, mais il y a des nouvelles sous-populations qui sont apparues. Et ils ont survécu à des périodes géologiques beaucoup plus chaudes que maintenant, où il n'y avait pratiquement aucune banquise dans l'Arctique, comme il y a à peu près environ 125 000 ans, durant la fameuse période géologique qu'on appelle la période émienne. Donc, les ours ont une capacité d'adaptation au changement, aux banquises qui se forment, qui se reforment, et ils sont beaucoup plus, ils ont une capacité d'adaptation encore plus forte que la nôtre. L'endroit idéal pour observer les ours polaires, moi je l'ai vu, c'est à Churchill au Manitoba, sur le bord de la baie d'Hudson. Et une des spécialistes de l'ours polaire, c'est une amie à moi qui s'appelle Suzanne Crockford. Elle était prof à l'Université de Victoria. On a aboli son poste parce qu'elle n'était pas dans la doxa climatique correcte pour son université. J'ai même traduit un de ses livres en français qui s'appelle « Ours polaire ». Faits et mythes, c'est disponible sur Amazon pour ceux qui veulent s'informer. Dernière fois que j'ai vu Suzanne, c'était à Paris, où elle était notre conférencière invitée à l'Association des climato-réalistes, et je l'avais vue avant ça à Calgary, à la réunion annuelle de Friends of Science, où elle était aussi conférencière invitée. Puis j'ai appris beaucoup, tout ce que je sais sur l'ours polaire, c'est elle qui me l'a appris. Donc, les ours polaires, non seulement ne sont pas menacés, ils sont à l'heure actuelle en expansion. On sous-estime la capacité d'adaptation aux conditions changeantes de ces animaux-là.
Absolument.
L'ours polaire et aussi le corail.
Et on a tendance à leur nuire. T'sais, on voulait protéger les serres de Virginie. Là, ils se retrouvent dans les villes, puis il y en a trop. Et...
Exactement. Quand j'étais à Churchill, j'ai eu des contacts avec la GRC qui me disaient qu'en octobre, c'est dangereux parce que la glace n'est pas encore formée sur la baie d'Hudson. Et puis les ours, ils vont chercher leur nourriture dans le dépotoir de Churchill. Et s'ils rencontrent un Esquimau qui fouille dans le même dépotoir, ben c'est très, très dangereux. La police montée, la GRC, accompagne le soir à la sortie des écoles les enfants jusqu'à leur maison. Ils ont des carabines avec eux pour éventuellement faire face à des attaques par les ours polaires. C'est un animal magnifique, mais c'est le plus gros carnassier au monde. C'est un animal dangereux. Faut éviter de rentrer en contact avec lui. À propos de la banquise, là, ceux qui s'inquiètent de l'Arctique et de l'Antarctique, l'Arctique va commencer 2024 là, avec presque 1 million de kilomètres carrés de plus que l'année dernière.
Ah tiens, ils ne diront pas d'après moi. Hein.
Puis l'Antarctique, elle, va commencer avec 2 millions de kilomètres carrés supplémentaires par rapport à l'année 2023. Donc, on est loin d'être en péril.
Très loin.
Incroyable. Mais moi, ma prédiction à moi, là, l'année 2024 va être une année aussi chaude que l'année 2023 pour deux raisons. L'éruption du Unga Tonga, qui a projeté des quantités colossales de vapeur d'eau dans la stratosphère, la très haute atmosphère. Mm-hmm. Et ça, c'est un gaz à effet de serre extrêmement efficace. Puis l'autre raison, ben, c'est l'année El Niño qui va se poursuivre en 2024. Donc, attendez-vous à des températures élevées pour l'été prochain. Mais après ça, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir des baisses de température.
Alors voilà, yeah. Vous l'aurez appris au 92.5 avec le moustique Rénal Duberger. Merci beaucoup, Rénal.
Au plaisir, au revoir.
À la prochaine.